Non, tout à l'heure sur la psychanalyse, oui, bon, j'ai fait le clown un peu surtout, mais effectivement, c'est important de dire qu'il y a une psychanalyse critique féministe, et je m'excuse encore de dire qu'elle n'a pas été traduite en France, parce que vraiment, l'ouvrage de Deloretis qui s'intitule La pratique de l'amour, c'est à la fois une psychanalyse culturaliste, c'est-à-dire finalement prendre Freud aussi et le freudisme pour ce que c'est-à-dire un courant culturel et qui donc a. Parce que mine de rien, en France, on n'historicise même pas le fait, je sais pas, que Freud ait pu un moment croire que si on lui enlevait une couille, il allait devenir, il allait pas devenir impuissant, par exemple. Donc ça, c'est travailler dans les études culturelles le rapport au corps, par exemple, que Freud avait, le rapport qu'il avait à sa judaïté, le rapport, etc. Et tout ça, évidemment, que c'est important. Donc, Deloretis fait partie de ces gens qui, alors moi, j'ai, si vous voulez, j'ai fait 7 ans d'analyse lacanienne en France qui m'ont coûté la peau du cul, pour le dire, avant que je sache que cul pouvait s'écrire avec un cul. J'ai pas envie de recommencer. La critique de Lacan, etc., c'est le temps que ça prend. Lacan, c'est pas Freud, on sait bien. C'est un boulot qu'il faut faire. Il a été fait par des gens aussi comme, on parle de Deloretti, c'est des gens qui sont jamais traduits, mais Teresa Brennan, bon, qui est morte, mais a fait un travail tout à fait extraordinaire sur Lacan chez Routledge, à 3 volumes de critiques de la psychanalyse, etc. Deloretti démontre dans la pratique de l'amour que sans la perversion, la psychanalyse telle que Freud l'a définie, son système ne tient pas. Elle a tout un article sur l'envie de pénis ou les féminités masculines autour de la figure de Radcliffe Hall, qui est donc une aristocrate fasciste un peu, mais bon, hein, du fin 19e siècle, et qui a eu un procès à peu près aussi retentissant que celui d'Oscar Wilde en publiant Le Well of Loneliness, Le Puits de Solitude, où c'est un livre où elle revendique sa condition d'invertie. Et Teresa a fait un article tout à fait super intéressant là-dessus. Il y a aussi quelqu'un, alors là, vous n'entendrez encore jamais parler, donc je vous le dis, c'est pas pour faire du name dropping, qui s'appelle Elisabeth Grosch, et qui, elle, est très lacanienne et deleuzienne aussi, donc, et qui a beaucoup attaqué, enfin attaqué, qui, elle, n'a pas oublié d'essayer de penser cette notion de corps, parce que c'est vrai que un des problèmes de la théorie queer, en tout cas de la théorie butlérienne, c'est pas un problème des transstudies telles qu'elles se développent aujourd'hui, bien au contraire, c'est d'avoir un peu oublié le corps. C'est vrai que chez Butler, le corps, bon, ben voilà, la théorie de la performance, on peut dire ce qu'on veut, elle est extrêmement décorporalisante. Et de toute façon, chez Butler, on peut pas dire qu'il y a énormément de sexe ou de sexualité non plus, contrairement à ce qui se passe chez quelqu'un comme Gail Robin, etc. Voilà. Donc, je sais pas, pour me justifier par rapport au psychanalyse, je me justifie personnellement parce que j'en ai pris, mais voilà, pour 7 ans, que je ne nie pas d'ailleurs que la dynamique analytique fonctionne pas, mais effectivement, les usages en France, si vous êtes transpédéguine, allez voir un psychanalyste, c'est encore vraiment quelque chose qu'il vaut mieux pas faire. Donc voilà. Et après, forcément, quand on voit la prégnance du discours psychanalytique straight en France, qu'on a vu ressurgir à l'Assemblée nationale au moment des débats sur le Pacs, et quand c'était pas Lévi-Strauss, Lacan, c'était Lévi-Strauss, avec l'ordre symbolique et Françoise Héritier-Auger. Vous voyez, bon, franchement, au bout d'un moment, moi, je préfère utiliser le cinéma dans mes cours, dans ma vie, et la pornographie, pour avancer sur ma construction subjective et les politiques queer. D'abord parce que ça diffuse, ça marche bien. Et c'est très intelligible. Donc après un moment, on fait des choix, vous voyez, d'investissement. La psychanalyse a fait exprès d'être complexe. Enfin, la psychanalyse lacanienne est extrêmement complexe. Lire Lacan, c'est. Mais pourquoi lire Lacan? Enfin, ça vous prend 2 ans, quoi, si vous lisez vraiment Lacan. Alors voilà. Donc bon, après, encore une fois, une psychanalyse critique féministe, bien sûr que ça existe. Ici, on n'a pas vu passer, et je peux vous assurer, Pascal, vous le direz autant que moi, que depuis 10 ans, on tanne les éditions Payot parce que ça paraissait logique, hein, pour qu'ils publient peut-être ce genre de choses à partir du moment où ils ont publié Freud et tout, et que ça passe pas. Voilà, donc c'est bon.
Moi, je suis toujours très étonnée de la façon dont la psychanalyse est constamment présente ou est juste persistante dans que ce soit pour les questions trans ou pour les questions homosexuelles et même quand on veut l'éviter, le combattre, on en reparle encore aujourd'hui. Comment vous expliquez ça?
Bah, je pense que justement, toi, c'est une des raisons pour lesquelles ça vaut la peine de développer des formes critiques. Parce qu'il y a une tension, si tu veux, quand même, en psychanalyse, entre une psychanalyse très 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 normative et conservatrice de la différence des sexes, on va dire pour aller vite, qui est effectivement celle qu'on entend le plus bruyamment dans les médias. Mais il y a aussi des psychanalystes beaucoup plus discrets et qui travaillent un peu différemment et qui ont quand même bien compris que réduire le sujet normal, le sujet bien oedipianisé, nanana, ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire du tout. Et que donc, il y a une tension à l'intérieur de la psychanalyse. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant tenir compte du fait que, de toute manière, qu'on se positionne ou qu'on se positionne pas par rapport à ça, ce courant très normatif de la psychanalyse, il est présent et il est un adversaire contre lequel il faut se bagarrer. Miner le truc de l'intérieur, c'est pas idiot, c'est-à-dire chercher des appuis du côté de la psychanalyse critique féministe et du côté d'un certain nombre de psychanalystes qui, bien que minoritaires à l'intérieur de la psychanalyse, se posent quand même néanmoins des questions se posent des questions justement, non pas que des affirmations. Et que des points de vue comme ça bien dogmatiques, bien arrêtés, ça vaut la peine de le travailler. Je crois que tout le monde en bénéficierait, parce que sinon effectivement c'est ce point de vue très normatif, et qui est un point de vue normatif sur l'intime, donc c'est grave, c'est-à-dire ce sont vraiment des choses qui normalement ne concernent que nous, ne devraient pas concerner tout le monde. Donc c'est important, moi je pense qu'il ne faut pas laisser tomber quoi. Il ne faut pas tourner le dos, il faut essayer de travailler, d'argumenter en face.
Non, mais pour aller dans ce sens-là, le combat, enfin, ou la critique de la psychanalyse, justement, elle est nécessaire. Alors après, on peut dire le faire de l'intérieur, détourner, twister, je ne sais pas, coriser la psychanalyse, etc. Mais pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a plein de choses à dire par rapport à ta question. Une chose, c'est que effectivement, toute la psychanalyse ou tous les psychanalystes français ne sont pas nécessairement normatifs, mais le problème, c'est que c'est un peu le pain béni de la psychanalyse, ça. C'est aussi ce que vous disent les freudiens, mais bien sûr que ils vont dire justement, mais oui, le sexe génital, il n'y a pas de perversion, vous êtes homosexuel, c'est pas un problème, etc. Vous allez en trouver. Mais ils peuvent aussi vous dire que, en gros, ce qu'ils disent, c'est la même chose que ce que vous vous dites quand, par exemple, vous dites c'est pas que je veux changer de sexe, non, je voudrais... Voilà. Et là, eux, ils vont vous expliquer, ah non, vous changez de sexe, etc., etc. Ils ont quand même une vision... C'est un peu les gardiens de la différence sexuelle, hein, et de l'ordre symbolique, les psychanalystes. Après, la psychanalyse est une pratique surprivatisante. Évidemment, quand on voit comment on fonctionne, historiquement, peut-être que Freud, j'en sais rien, c'était un... qu'on me dise que Freud a été un pionnier, qu'il a inventé la psychanalyse, je crois que l'inconscient existe, j'ai pas de souci avec ça. Mais ça s'est construit comme une pratique, on a vu, hors institution, avec des distances et des concurrences, parce qu'il faudrait voir ça en termes aussi de sociologie, justement, de la médecine et des... Vous savez, quand il y a des spécialités qui apparaissent entre les gynécologues, entre les etc. Mais ce qui est remarquable avec la psychanalyse, c'est qu'ils ont inventé une pratique qui se passe dans l'espace privé. Et d'ailleurs, quand vous faites une analyse, c'est bien rare qu'à un moment, même si vous êtes avec un lacanien qui ne va pas vous parler pendant 10 ans, il y a au moins une chose qui vous dira et qui vous conseillera, c'est de ne pas dire à l'extérieur ce qu'on se dit ou ce que vous lui dites, etc. Donc vous voyez, on est dans une phase d'extrême privatisation, d'ailleurs de smoke, moi, que je déteste, qu'elle est intime, etc. Donc on est aux antipodes de la politique. La psychanalyse ne veut pas être ni historicisée, en France, alors qu'elle est ailleurs, vous allez aux archives Freud n'importe où, il y a des boulots vraiment extraordinaires qui se font, hein, aussi, des historiens, de la psychanalyse pur jus. Elle ne veut pas être politique, et en plus, elle surprivatise, donc forcément, et elle ne veut pas assumer le fait qu'elle a un rôle politique. Et qu'en France en particulier, il y a un discours psychanalytique qui est utilisé à des fins politiques et peut-être même pas par les psychanalystes. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a une tension incroyable et nécessaire, et puis on est là-dedans, entre justement des gens qui vont avoir affaire à la psychanalyse, alors qu'ils ne voudraient plus avoir affaire à elle, mais la psychanalyse va s'occuper d'eux. C'est évidemment très valable pour la transsexualité. Ça l'a été pour les garçons manqués, les etc., les homosexuels, etc., etc. Bon, d'autres il y a des sciences du comportement behavioriste qui ont aussi essayé de rééduquer les homosexuels. Je suis pas en train de dire que la psychanalyse est la pire de toutes, etc. Mais donc, vous voyez, là, forcément, on peut pas s'entendre. Et forcément, le pouvoir de la psychanalyse qui n'est pas affirmé, qui n'est pas, open, on est vraiment dans une logique de placard dans la psychanalyse. Hein. En plus, vous payez, enfin, bon, j'en passe, c'est des meilleurs, vous voyez, bon. Ils veulent pas assumer ou ils ne veulent pas être confrontés. C'est souvent le problème qu'il y a avec les psychanalystes. Hein. C'est que, alors qu'un psychiatre, à un moment, il a été obligé, je sais pas, d'être dans une institut confronté ou de justifier ou de faire tampon ou d'être utilisé. Alors après, on peut dire qu'il fait partie du système disciplinaire carcéral, par exemple, un expert, vous voyez, auprès des tribunaux, etc. Mais les psychanalystes, ça les intéresse pas. C'est toujours... comme ça, donc ça explique les. Et en même temps, voilà, qui à un moment donné, qui régnait sur l'assignation de genre avant même que moi je sache ce que ça veut dire. Alors j'ai dîné avec cette femme à l'époque. Agnès Oppenheimer était lacanienne, c'était la fille d'Edgar Faure pour situer des choses comme ça parce que la France est un pays quand même incroyable. Et c'est elle qui décidait comme ça de la phalloplastie ou pas. Oui, non. C'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait dans les années 80 et c'est pas mieux maintenant. Vous voyez? Donc les psychanalystes en plus ont une manière d'utiliser la position sans doute de minoritaire peut-être. Enfin, je pense qu'il y a eu, plein de raisons pour lesquelles la psychanalyse est sortie du circuit et avait une idée aussi de la transmission, enfin, tout ça. Tout ça est très intéressant. Mais enfin, bon, voilà. Ce qui fait qu'elle est à la fois partout et nulle part et que quand on commence à faire la politique sexuelle, forcément, on dit à la psychanalyse, bon, alors. Et les psychanalystes n'ont pas envie d'être là. Mais un des exemples les plus frappants de ça, c'est que dès qu'il y a eu un peu de théorie queer en France ou de politique queer, etc., mais vraiment, les gens qui sont venus nous faire chier au séminaire, c'était les lacaniens. On est des amis. C'était nos amis. Mais c'était incroyable de leur dire, c'est pas qu'on vous aime pas, mais c'est pas possible. Enfin, voyez le... Ah non, non, si, SM, on est d'accord, c'est formidable, on va traduire. Et là, beaucoup de textes queer ont été traduits, la théorie queer, qui sont rentrés dans le canon de la théorie queer, ont été traduits par la secte lacanienne de l'EPEL. Et il y a eu enfin bon, moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle Queer Zone qui a été réédité. Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui d'avant. Comme ça, je fais la pub pour les deux. Un jour, ils nous ont invités. J'ai dit, je ne peux pas, je veux pas venir. Parce qu'ils avaient, ils ont traduit Pat Califia, qui est donc un transgenre politique américain qui a écrit énormément de livres, aussi de la littérature érotique, qui était une lesbienne radicale, qui est ensuite devenue une domina SM, qui maintenant est un garçon.
Et qui est thérapeute.
À mon avis, prenez rendez-vous avec Pat Califia, ça sera pas forcément moins cher pour y aller, mais sur place, ce sera pas le même problème qu'avec les psychanalystes français. Et ils ont poussé le vice, donc il y a un vice, hein. Qu'il faudrait qualifier théorique et justement théorique, purement politique, à inviter en plus comme si c'était en plus sincère, et ça l'était peut-être, mais ça n'était pas innocent épistémologiquement ou politiquement, pas de qualifier à Paris, avec en plus une association de trans, parce qu'ils ont compris qu'il fallait peut-être quand même écouter la voix des trans, donc à l'époque c'était le charitique, etc. Je leur ai fait une intervention où j'ai décrit leurs symptômes, le symptôme qu'ils avaient, que pourquoi c'était pas possible. Mio était dans la salle, il y avait rien à faire, il comprenait pas. Donc voilà. Après, c'est pas une question de, vous voyez, de comment dire, on se comprend pas. C'est que là, il y a un clash politique extrêmement fort et que de toute façon, effectivement, quand tout à l'heure, moi, je peux pas me permettre de dire parce qu'un analyste n'existe pas ou je m'en fous. C'est juste que je veux pas y mettre ce que j'ai dit que je voulais pas y mettre. Mais malheureusement, et puis n'oublions pas qu'en France, la psychanalyse a pas du tout été concurrencée par d'autres thérapies qui sont peut-être elles-mêmes aussi contestables. Aux États-Unis, bon, il y a, enfin, c'est le conflit, je trouve, avec. Enfin bon, ça, tu sais mieux que moi. Donc moi, je dis peut-être des bêtises. Pardon.
Oui,
oui, mais il n'a pas, il n'est pas légitimé comme la psychanalyse. La psychanalyse, c'est quand on est un psychanalyste, on est aussi un grand écrivain, un grand intellectuel. Enfin.
Ça peut changer ça. Bah, bon, bref.
Bon, alors, je retire les quatre dernières phrases. Apparemment, c'est des conneries.
Je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours quand même cette idée. Bon, il faut quand même encore essayer encore une fois. Tu vois, c'est plus dans ce... Mais sinon, bon, l'expérience que tu décris avec Qualifia, j'étais présente, je sais très bien. Je sais très bien, oui, t'as raison, bien sûr. En même temps, bon, cette collection, elle existe, et je pense que la plupart des gens ne savent pas que les livres existent, parce qu'il n'y a aucune diffusion. Et c'est quand même dommage, parce qu'il y a quand même Marché au sexe dans cette collection. Alors, tu diras qu'il n'est pas bien traduit, etc. Mais enfin, Marché au sexe, ça va, c'est Imitation et subordination, que tu trouvais mal traduit, qui est dans le même recueil. Bon, quand même, un texte de Gail Rubin, qui est un texte super important, hein, qui est dans cette collection. Il y a toute une série de textes importants, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de diffusion de fait. Ça reste très confidentiel, très à usage, à leur usage.
C'est fait exprès.
C'est possible.
Si vous parlez avec le directeur de la publication, qui est aussi le directeur de la secte psychanalytique lacanienne dont je parlais, parce que nous on a discuté avec lui, même Gender Trouble a failli être traduit là. C'est à usage interne les livres. On retrouve cette histoire d'espace privé ou d'espace intellectuel élargi, de séminaires entre analystes. Mais diffuser un livre, alors ça, mais pourquoi ? Non.
Par exemple, ils ont publié quand même un texte extraordinaire qui est l'autobiographie de la jeune homosexuelle de Freud. Et c'est génial parce qu'elle elle a vécu 100 ans, donc elle n'a pas été jeune tout le temps. Et donc elle a une biographie extrêmement longue et Freud a tout faux. Ça, il dit qu'elle est féministe, elle en a rien à taper, mais alors vraiment, c'est pas du tout son problème. Il dit qu'elle a pas de problème du tout, qu'elle est pas malade, etc. Puisque, alors bon, du coup, il voit pas du tout qu'elle a, elle a en fait un problème, c'est qu'elle est frigide. Et ça, Freud passe complètement à côté. Enfin bon, il y a toute une série de choses comme ça, super passionnantes dans cette autobiographie, vraiment. C'est très 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 chouette. Ça, je pense que personne ne sait que ce livre existe. Tu l'as lu, toi, ça ?
Non, je sais ce qu'il publie, mais je l'ai pas.
Mais c'est un bouquin absolument. Il y a des bouquins absolument passionnants, mais qui sont comme ça laissés complètement hors milieu. Je trouve que c'est dommage, parce qu'évidemment, on a du mal à en faire la pub pour les raisons que Marie-Hélène a indiquées. Moi, je suis très ambivalente. Et en même temps, je trouve que c'est des bouquins super importants. Le bouquin de Linda Hart et quand même la performance sadomasochiste est quand même un bouquin hyper important.
Non, mais moi, je les mets dans toutes les bibliographies. Ils ont même traduit l'invention de l'hétérosexualité de Ned Katz, etc. Linda Hart sur le sadomasochisme et la performance. Imitation and Gender and Subordination collé avec Thinking Sex. Et puis pas de Qualifia et non moi j'en parle, enfin au contraire c'est plutôt moi qui fais la diffusion des livres en question, bien sûr des textes en question, mais c'est quand même pas un hasard si dans le paysage éditorial français ils sont coincés quelque part, que c'est pas non plus des éditeurs qui ont fait le boulot et qui les font exister, hein.
Oui, je voudrais poser une question parce qu'on passe beaucoup du terme théorie queer à politique queer et j'aimerais bien savoir c'est quoi les pratiques politiques queer.
Sans blague. Alors, effectivement, il y a quelque chose de volontaire là-dedans parce que le statut de la théorie dans la théorie queer n'est pas le même que dans la théorie française. Ce n'est pas cette idée, c'est plutôt l'idée de la boîte à outils. Donc déjà, si vous voulez, l'écart entre, on va dire, la théorie et la praxis est pas aussi important. Donc par exemple, il n'y a pas un gros machin, le signifiant du truc, etc. Et puis après, on ne sait pas comment on va le mettre en pratique. Ça vient aussi du fait que la théorie queer, tout à l'heure, Pascal soulignait le fait, par exemple, qu'on peut trouver... Chrysella Pollock, féministe, qui utilise aussi bien Sarah Kaufman, des auteurs français, que une tendance matérialiste, marxiste ou post-marxiste, etc. Il y a dans les écrits culturalistes, et la théorie queer fait partie de ce type d'écriture, on va dire, une manière de traiter la théorie de manière extrêmement pragmatique et avec pas mal d'irrespect, même s'il y a un vrai plaisir à s'envoyer en l'air théoriquement, etc., à trouver des théories et tout ça. Donc ça, c'est important de le souligner parce que les textes sont moins prétentieux, il n'y a pas la théorie pour la théorie. Et il y a souvent plutôt déjà l'idée de, quand on fait, pour expliquer cette indécision de théorie pratique, puis après je reviendrai sur le bout de la question, la politique. Non, mais c'est aussi parce que l'idée, c'est, au lieu de faire une théorie systématique ou une grande théorie, les gens se retrouvent plutôt, et c'est à la fois culturaliste et très vrai dans la théorie queer, plutôt sur un thème ou un objet qu'ils vont construire ensemble. Je dis par exemple la curiosité. En ce moment, il y a une fille qui s'appelle Elisa Stenbock, qui fait sa thèse à la fac de Amsterdam en études culturelles, et elle travaille sur obscénité et curiosité par rapport au corps des trans, par exemple. Donc, elle va mobiliser toute une série de choses qui seront à la fois politiques, des références qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, etc., pour essayer d'arriver à articuler quelque chose. Donc, il y a ce côté un peu inversé, ce côté boîte à outils, etc. Bon, c'est pas les premiers qui défendent ça, mais c'est, on s'en rend vraiment compte quand on lit, hein, c'est souvent, il y a beaucoup de données, beaucoup de contextes, beaucoup de, il y a vraiment l'idée de, et de faire des textes qui servent. Alors, déjà, il y a ça. Après, les pratiques, donc, politique queer, la politique queer a été une politique, en tout cas elle s'est manifestée essentiellement par rapport à la question des genres dans un premier temps et de la sexualité, comme disait tout à l'heure Pascal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu cette idée, bon, par exemple, une pratique très, très claire et qui a fonctionné, et il y a une subculture à la fois extraordinaire et vivante autour de ça, c'est le gender fucking. À un moment, les gens se disent pas simplement « je lis Judith Butler » ou « j'ai eu le genre comme performance » et non plus simplement comme construction. Non, ils font du gender fucking. Donc, ils vont faire, par exemple, un atelier drag king, ou par exemple, ils vont vivre, une lesbienne butch va vivre sa masculinité qui, avant, l'aurait peut-être, elle se serait sentie mal à l'aise, elle va la développer, ou elle va la surdévelopper, ou la surexposer. Il va y avoir toute une idée, et d'ailleurs, très rapidement, on va déborder cette histoire de binarité des genres, c'est-à-dire, par exemple, des filles plutôt masculines ou des garçons plutôt efféminés. Et d'ailleurs, dans la théorie queer, se retrouve beaucoup, quand je dis féminé, c'est évidemment avec des guillemets. Franchement, vous avez dû remarquer que dans le milieu gay traditionnel assimilationniste, il fait pas bon être tapette, il fait pas bon être folle. Donc, on retrouve effectivement dans toute la culture queer, toute cette culture de la folitude, de l'excentricité, du glamour, etc. Donc, déjà, toute cette manipulation des codes de genre, et qui, c'est une pratique politique, mais comme les féministes disaient, mon corps m'appartient, mon genre, c'est pas, j'en fais ce que j'en veux, j'en change tous les jours, comme certains ont voulu caricaturer un petit peu la théorie du genre de Butler, mais on peut aussi lui reprocher ça, parce que c'est vrai que le genre, c'est pas simplement, oui, le théâtre, c'est pas simplement les vêtements, si vous commencez à prendre des hormones, c'est autre chose, et ça, Butler, elle y comprend rien, hein, d'accord? Donc voilà, des pratiques corporelles différentes, par exemple, l'idée, quand même, en moins de 20 ans, on a vu des lesbiennes radicales, donc prenons des exemples très politiques, qui avaient des pratiques politiques ou pour qui la vie comme était politique, mon privé est politique, mon corps est politique, mon corps m'appartient, etc., qui ont fait un cheminement finalement où elles sont devenues des hommes différents. Par exemple, je prends l'exemple d'un female to male, c'est-à-dire un garçon transgenre comme Max Valerio, qui était lesbienne radicale et qui maintenant est devenu un garçon hétérosexuel. Donc là, on commence à complexifier complètement, évidemment, les combinatoires, et ça va dans le sens de la déconstruction de l'hétérosexualité, etc. Et qui est devenu, d'ailleurs un FTM assez macho, comme quoi, et qui, si vous voulez, fait partie aussi de ces nouveaux garçons, qui non seulement ont une sexualité, ce qui n'était pas le cas de tous les trans. Donc, vous voyez, on peut pas dissocier la politique, corps, tout ça va ensemble. C'est parce qu'il y a eu ce développement d'une nouvelle relation au genre et à la sexualité, et aussi au fait qui on voulait qu'il y ait de la sexualité. Et le SM aussi a beaucoup fait pour ça, etc. L'apparition du SM dans la scène féministe et lesbienne, etc. Et voilà maintenant un exemple concret de personnes. On pourrait parler de Lorraine Cameron. Je donne des exemples de gens qui se sont mis en scène eux-mêmes aussi, d'ailleurs, dans des masculinités qui revendiquent comme transgenre, queer, etc. Et quand même, on arrive en 10 ans à cette idée que oui, les garçons transgenres sont des mecs sans bite et que c'est très bien comme ça. Et qu'ils sont en train de produire une masculinité sans bite, par exemple. Et ça, sans discours politique, sans le discours féministe, sans le discours queer, sans tout ce mélange. C'est pour ça que j'essaye pas d'éviter ta question, hein. J'essaie de montrer que c'est très minoritaire, ce que je définis. C'est de la micro-politique. Et en même temps, si tu veux, c'est pas une idéologie, parce que ça, tu le vois, tu vas dans un festival, tu vois bouger les identités, avancer les corps, changer les corps en fonction de critères qui sont, par exemple, même des grandes thématiques féministes. Par exemple, dans le SM, la sécurité. Bon, bah avant, c'était être safe, dans un espace safe. Pourquoi les femmes, quand elles sont dans un espace public dans la rue, c'est pas safe de marcher dans la rue le soir, etc. Le SM queer et le SM féministe, première chose qui reprend, et ça, c'est pas dans SAD, et c'est pas dans un Armazor présenté par Deleuze, c'est safety. Consensualité, contractualisation de l'échange, érotisation des rapports de pouvoir. Qui aurait pensé à un moment donné que le féminisme allait aussi arriver à se dire, parce qu'il y a tout un féministe qui dit, oh le pouvoir, non, on n'aime pas le pouvoir, le pouvoir, nous on dénonce l'oppression. Bah, on voit le résultat en France, hein. Je dis pas qu'il faut être Hillary Clinton, hein, mais enfin quand même. Entre Hillary Clinton et ne pas avoir et pas pouvoir phobique, il y a sûrement un peu de puissance et d'aise à récupérer. Bon, pas être technophobe, par exemple. Donna Haraway, qui est une épistémologue féministe, à un moment donné, elle reprend le féminisme à rebrousse-poil en disant, parce que la technique, c'est du côté des hommes, mais la technique, les femmes s'en sont privées. Mais à un moment donné, il faut voir des femmes hebdo, où vous avez des photos dans Femmes Hebdo, c'était la feuille de chou plutôt chic, le magazine, d'Antoinette Fouque, Hélène Cixous et compagnie, des femmes, comme tu disais tout à l'heure, on ne sait jamais qui c'est, des femmes, elles avaient piqué le nom, évidemment, tout le monde, elles signaient des femmes pour tout le monde, hein, plus personne ne pouvait parler, des femmes cousent. Et on voit une photo, mais je vous jure, une photo de quelqu'un qui coud, quoi. Quelqu'un. Alors, les femmes, vous voyez, les femmes, elles peuvent pas être sur un tracteur, hein, avec Antoinette Fouque. Non. Vous voyez ce que j'ai. À un moment donné, on arrive à ce que politiquement, Donna Haraway dise finalement, le féminisme, il fait pas une erreur en étant technophobe. C'est pas pour dire que la technologie c'est bien, que le progrès technologique c'est bien, mais oui, tout ça. Donc il s'est passé tellement de choses, je trouve, au niveau des nouvelles pratiques corporelles et sexuelles. Ne serait-ce que dans la sexualité lesbienne aussi. Là, moi, je sais pas, je viens du festival porno de Berlin et on va monter les festivals porno à Paris. C'est incroyable comment la sexualité lesbienne, par exemple, a évolué sous l'impulsion de une manière de voir les genres, une manière aussi de visibiliser les choses. Alors après, on aime, on n'aime pas, ça nous excite pas, etc. Mais il y a une espèce de profusion, de métamorphose, j'aime pas trop ce terme, enfin de changement, alors appelons-les comme on veut, qui sont des résistances biopolitiques, qui sont là, vous voyez, de la production d'un corps anormal, mais content, fier de l'être, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, voilà, c'est des choses comme ça qui sont passées. Donc la politique queer, c'est ça. Enfin, des exemples concrets de politique queer, c'est ça. Donc le gender fucking, c'est ça. Cette production de corps différents, c'est ce rapport aux hormones ou le fait d'arriver à redéfinir la masculinité sans la bite en faisant simplement une métidioplastie qui est une opération alternative. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français. Métaïdoplastie, excusez-moi, j'ai écorché. Mais vous vous rendez compte de la dénaturalisation de la bite que ça représente ? La dénaturalisation de la bite ? c'est un des grands événements culturels et politico-sexuels du siècle. Le God ! Le fait que... Mais comment on a pu imaginer, par exemple, que... Mais oui ! Et comment les lesbiennes, à un moment donné, nous disaient pas de God, puis elles... Moi, quand j'étais bébé lesbienne, je pouvais pas utiliser de God, parce que c'était interdit. Mais même si j'étais pas politisée, parce que c'était imité, le machin, le truc, tout ça... Et maintenant, vous avez des gens qui vous théorisent le God et qui vous expliquent que le God, c'est plutôt l'imitation de la main. Si on y réfléchit bien et qu'on voit comment est fait le rabbit pearl, vous savez, celui qui a les oreilles de lapin qui arrive sur le clit, les petites perles qui bougent à l'entrée, puis le machin qui rentre dans le vagin, on se dit, ah ouais, franchement, c'est pas un pénis. Ouais. Les pénis, ils font ça. Ouais. C'est peut-être même mieux qu'un pénis. Ouais, en tout cas, il est toujours bandant, plus celui-là. Il y a des avantages pour tout, y compris les femmes hétérosexuelles. Donc, vous vous rendez compte quand des changements. Non, mais c'est vrai.
Non, t'as raison.
Moi, non seulement je crois ce que je vous dis, mais je l'ai senti. Donc, je parle de choses quand même très con. Là, on parle de pratiques sexuelles. Et pour moi, elle est indissociable du politique. Parce qu'à un moment, si j'ai pu me prendre un gode dans le cul, c'est parce que j'avais la politique sexuelle derrière aussi. Ou devant. Enfin,
quelque part.
Comme tu dis, Thérèse.
Alors, faut se réjouir. Parce que,
oui, il faut se réjouir.
Moi, la révolution, je ne suis pas très... Je pense que c'est... Ah, y a, alors oui, mais vous soulevez là un problème très intéressant. D'ailleurs, il y a tout un courant de pornographie féminine, féministe, etc., où c'est comment enculer son boyfriend, son ami. Et il est temps que ça arrive, parce que beaucoup d'hommes, effectivement, en plus, veulent se le prendre dans le cul. Mais il n'y a pas de discours là-dessus. Hein. Ils le font, ou alors ils le font avec d'autres garçons, sans s'identifier pour autant. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils s'identifient comme homosexuels. Mais vous remarquerez que ce qu'il faut qu'ils changent, c'est peut-être justement la représentation dans la pornographie, parce qu'ils veulent se le prendre dans le cul. Sauf que si vous regardez la pornographie straight, et je me retrouve dans la position délicate de devoir regarder des films pornographiques straight pour programmer la section straight du festival porno, donc je travaille beaucoup... Vous aurez remarqué que le standard dans les films porno straight dominants, ce qui se prend dans le cul, c'est pas eux. Pour autant, il est indispensable d'enculer ses partenaires dans le film porno, dans le porno straight dominant. Ah, mais on n'est pas homosexuel pour autant. Hein. Ah, puis c'est comme si c'était pas un trou du cul. Par contre, de là à ce que la femme fasse la même chose avec son partenaire, ouais. Bon, là, il y a un grand avenir, je pense, dans la transformation de l'hétérosexualité, justement, avec cette histoire des femmes qui enculent les mecs. Ça, c'est certain. Il ne faut pas oublier de me gel.
Il n'y a pas encore un attouchement entre garçons dans des bordeaux hétérosexuels.
Il y a une pornographie minoritaire qui se développe et qui est là-dessus. Et d'ailleurs, qui ira aussi dans le sens de peut-être qu'après, les hommes qui aiment se prendre dans le cul pourront faire, non pas un coming out, mais un peu moins coincé placard là-dessus, sur cette histoire de se le prendre dans le cul. Hein. Après tout, Sarkozy s'est fait encore traiter d'enculé par le marin pêcheur. Peut-être que comme ça, on va arrêter. Hein. Attends, j'ai pas dit tout dans le cul, n'importe comment.
Je suis pas sûre.
Hein.
C'est juste
n'importe
que,
quoi.
Même jouer les pornos lesbiens, franchement, c'est très normé dans la classe, la race et tout. Enfin, ça me gonfle. Hein.
Ouais.
Franchement, je trouve ça horrible.
De toute façon, pornos lesbiens, on les a tous vus. Hein, 50 dans le monde.
C'est généreux.
Non, mais je trouve ça les critiques. Oui, je suis généreuse. Les pornos hétéros, ouais. Enfin, je trouve ça très construit. Mais je veux dire, juste s'il y a des pornos, voilà, tout le monde regarde des pornos, tout le monde se met une bite dans le cul, on s'en fout. Hein,
mais on sait, mais je veux dire, il y a rien qui va dans le cul, on voit très bien de quoi on parle.
Non, mais je veux dire, moi,
on parle des rapports de
voilà,
pouvoir,
on fait les pornos, blabla, est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense pas, en fait, c'est ça.
Dans la société,
alors maintenant, voilà, la question, c'est est-ce que la révolution vient
à travers ton image, à travers l'image, oui, à travers le film, voilà. Je pense pas que.
Mais si,
les hétéros, ils s'enculent, quoi. Non,
oui, dans un seul sens.
Bon,
et
il faut
sec.
Peut-être qu'ils l'avouent. Après, ils vont faire. Mais bon, après.
Mais moi, voilà. D'abord, attention, on veut pas. Faut le pas me demander de faire la révolution alors que j'ai dit que je trouvais.
Non,
que...
pas le but politique. Bon, alors, oui, après.
Disons que le féminisme, ça a changé pas mal de choses par rapport au statut des femmes aujourd'hui, à tout ce qui peut se passer, par exemple, concrètement, dans la société, on voit tous les jours.
Oui.
Et le queer, qu'est-ce que ça va amener? Voilà, c'est ça un peu qu'a demandé d'un point de vue social, vous qui êtes sociologue.
Non, je suis pas sociologue, c'est parce qu'en France, il existe quelque chose.
Ouais, voilà, c'est ça, non, mais pareil, je fais de la sociologie, je crache pas dessus.
Je ne suis pas à la discipline de la sociologie, c'est pour ça.
Moi, je dirais bien quelque chose, mais j'ai peur d'avoir du mal à le formuler. Je me suis trouvée dans un colloque à la Sorbonne de féministes, qui est un colloque. Donc, Sorbonne, j'insiste, hein, c'est-à-dire la Mecque. et donc, c'était un colloque sur le genre. Et c'était un colloque en économie. Et il y avait des jeunes femmes qui présentaient une étude sur le rapport entre les pour aller vite, hein, parce que j'ai plus tout dans le détail, c'est les couples et puis comment on calcule, on maximise les choix par rapport aux gardes d'enfants. Et ce qui était très frappant dans l'exposé de ces jeunes femmes, c'était que le modèle économique déduisait le salaire des babysitters ou de la crèche, etc., du salaire de la femme. C'est-à-dire reproduisait dans son modèle même quelque chose dont on peut penser qu'effectivement, c'est peut-être plus ou moins comme ça que les gens font le calcul. Enfin, c'est quand même très problématique. Quand on a discuté de ça avec elle, elle disait oui, mais c'est comme ça, parce que les modèles économiques sont bêtes.
Vous comprenez, c'est simpliste, le modèle économique, on ne sait pas les faire autrement, donc on les fait comme ça. C'est quand même très embêtant parce que les économistes, c'est quand même les gens qui sont au sommet de la hiérarchie des sciences sociales, ils sont beaucoup plus écoutés que Marie-Hélène et moi, hein, par exemple, par les politiques, etc. Donc ils avouent eux-mêmes avoir des modèles bêtes, et en même temps, c'est ces modèles bêtes qui vont servir de référence. Et ben, tout simplement, si on change le modèle de référence, si la famille, c'est plus la famille papa-maman, c'est une famille homoparentale, par exemple. Comment on sort de, on va plus pouvoir attribuer le salaire de la nourrice, on va plus pouvoir le déduire du salaire de un des deux membres du couple qui serait la mère. Voilà. Et donc on réfléchit les choses très autrement. C'est simplement pour vous dire que le féminisme a changé énormément de choses. Je suis féministe, je défends le féminisme, mon travail s'inscrit dans cette lignée-là et j'y crois malgré toutes les vicissitudes, encore énormément. Néanmoins, on voit aussi des usages qui peuvent être faits d'une pensée qui se dit féministe, c'est-à-dire qui pense la question différenciée des hommes et des femmes dans l'espace social par rapport à la question des enfants, par rapport à la question du travail, etc. Reproduire d'une manière absolument consternante des modèles qui sont des modèles très naturalisants en réalité. Je pense qu'on fait un pas de côté. On va chercher un autre modèle de la famille. C'est ce que disait, je trouvais très, très intéressant, Marie-Hélène, tout à l'heure, sur le changement de paradigme. On prend la drague, au lieu de prendre je ne sais pas quoi, ça change de paradigme, et ça change de paradigme, ce qui est important, pour tout le monde. C'est-à-dire que si on construit un modèle économique avec une autre idée de la famille, ça va changer pour tout le monde. Et alors, c'est vachement bien, parce que ceux qui étaient exclus du modèle se retrouvent inclus, en plus, ce qui n'est quand même pas inintéressant, aussi, parce que dans un modèle comme ça, extrêmement hétérosexuel, bah, toutes les autres familles, comment ils calculent le coût des gardes et comment ça organise leur choix de boulot, on s'en fout. Donc ça permet de les inclure, mais c'est plus que ça, c'est plus que de l'inclusion, c'est que ça change le modèle pour tout le monde. Et peut-être qu'on pourrait faire un modèle économique, du coup, moins bête.
Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a des articulations vachement...
Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, comme tout d'un coup, on est parti sur la pornographie, alors forcément, ça mobilise... Non, mais il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de contradiction ou de dissociation. C'est impossible, en fait, à la fois politiquement, historiquement, culturellement, entre le féminisme et le féminisme queer, si on veut l'appeler comme ça, ou la théorie queer, ou le mouvement queer. Donc là, c'est pas est-ce que le queer va faire autant que ce qu'a fait le féminisme tout à l'heure. Je parlais par exemple de ce que faisait la culture queer, moi je dirais la subculture queer pour les gens qui veulent y aller, hein, et ceux qui veulent en profiter. C'est on voit bien produire des identités différentes, évidemment dépathologisées, fortement sexualisées, des corps différents, etc. La pornographie est un registre majeur pour ça. Si vous regardez le parcours, par exemple, de quelqu'un comme Annie Sprinkle, elle est féministe, elle est post-féministe, troisième vague peut-être, et elle faisait des ateliers à un moment avec des femmes. Ça s'appelait le Transformation Salon, le salon de la transformation. Donc elle prenait, c'est un peu comme les ateliers drag king, mais enfin, ça marche pas pareil. C'est-à-dire que des femmes viennent passer la journée avec elle. Le matin, bon, elles arrivent et puis elle va les transformer en pute ou en, entre guillemets, ou en fille super sexy selon les codes, ou en pin-up, etc. Et elles font ça pendant la journée. Elle faisait un travail comme ça sur la représentation, sur aussi la contrainte de ce que c'est des sexy, les normes de genre, et en même temps le fait que ça peut être sexy, que ça marche en plus, etc. etc. Tout ça, c'est des micro-pratiques, si vous voulez, qui engagent à la fois, alors quand même des choses qu'on a dit en commun, l'idée de sexualiser, de resexualiser ou de sexualiser autrement. Si en ce moment, il y a des femmes qui font de la pornographie, il y a un groupe à Barcelone qui s'appelle Girls Who Like Porn, qui est d'ailleurs un groupe hétéro, l'idée, c'est quand même très intéressant de faire une pornographie à un moment donné où tu peux t'identifier, voire mouiller la culotte, ce qui est quand même un peu l'objectif de la pornographie, puisque les trois quarts des femmes qui regardent la pornographie, et pour des raisons politiques en fait, elles ne peuvent pas s'identifier aux femmes qu'elles voient dans la pornographie. Donc soit elles regardent des films de PD, soit elles regardent, etc. Bon, mais là, il y a tout. Il y a ton rapport au pouvoir, ton rapport à la culture, à l'hétérocentrisme. C'est pour ça que tu vois, je vois plus la pornographie comme un prisme. Et à chaque fois, on peut faire des choses avec... Justement, moi je vois plutôt la force de mais c'était la force du féminisme aussi, c'est des constructions d'affirmations culturelles différentielles, etc., redéfinir la femme. Bon, là, ce qui est en train de bouger, sujet, c'est ce que dit aussi avec son exemple Pascal, c'est que et c'est là où il y a changement par rapport au féminisme, alors appelons le féminisme queer si on veut, c'est que l'objectif n'est plus la femme. C'est vraiment que on arrive à un moment où finalement le référent femme est devenu bloquant. Pour être féministe, continuer le féminisme, continuer une politique du corps, ou une voilà. Donc voilà, ça, on peut souligner ça. Donc, tu peux le dire historiquement. Alors, queer arrive à ce moment-là. Queer n'est pas là pour dire, féministe, c'est de la merde. Tous ceux qui ont dit ça, c'est vraiment, c'est impossible. Teresa De Laurentiis, sa culture, Judith Butler aussi, même si elle a pas trop mis les mains dans le cambouis par rapport à Teresa De Laurentiis, qui était vraiment dans le raising consciousness et groupe de conscience des années 70. Ça aussi, voilà, à un moment, le féminisme, c'est quoi une pratique politique? Quand des femmes dans les années 70 disent la conscience, ça vient pas comme ça, on va l'organiser. Elles créent la technique des groupes de prise de conscience, de raising consciousness. Bon, elles transforment leur vie. Tu vois, c'est des petites choses. Donc, cette histoire de révolution, en plus, c'est un modèle, on sait qu'il est fini, c'est un récit marxiste caduc. C'est comme ces histoires d'abolition, ces histoires d'oppression, je sais pas quoi, etc., etc. Je suis pas en train de dire qu'il y a des failles partout, mais oui, la politique, c'est quoi? C'est la politique qu'on invente. Ça a toujours été ça, le féminisme, ou les politiques sexuelles, les politiques de genre. Ça veut pas dire, d'ailleurs, qu'on pourrait pas imaginer comment elles pourraient se traduire dans l'espace public, sur des problématiques transversales. Mais voilà, donc j'ai cité la pornographie, après on parlait du trou du cul, mais en fait, évidemment, on ne parle pas que du trou du cul, on parle de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, pourquoi il y a des hommes, s'ils s'en prennent dans le cul, ils pensent qu'ils sont plus virils, ou ils perdent la masculinité, etc., etc., on parle de tout ça. On parle de l'hétérocentrisme, on parle de l'hétérosexualité, on parle de la naturalisation abusive, par exemple, de la sexualité. Tout à l'heure, tu me disais, la bite, la dénaturalisation de la bite, je comprends pas. Ah ben, il faut quand même, c'est quand même incroyable de penser qu'il n'y a qu'une bite qui peut rentrer dans une chatte. Alors qu'en plus, les gens n'arrêtent pas d'utiliser leurs mains, tous. Peut-être qu'un des organes sexuels les plus efficaces, c'est avoir, en tout cas, pratiqué, ou que tout le monde pratique, hétéro ou pas, voilà, c'est la main. Alors pourquoi sans arrêt? Parce que quand on se serre la main, on ne veut pas penser qu'on... Alors donc c'est important, ces histoires de dénaturalisation. Bah si, à chaque fois qu'on se serrait la main, en plus, ça faisait un petit... Oh.
Mais juste pour... je pense que c'est par rapport à la question sur le politique et ce que vient de dire Marie-Hélène, je pense que c'est pour ça que, par exemple, dans l'œuvre de quelqu'un comme Teresa De Laurentiis, le concept d'expérience est un concept aussi central. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit sur les groupes de conscience, etc., bon, c'est donc quelque chose de collectif, de politique, etc., mais ce qu'il s'agissait de prendre en compte, mais aussi de modifier, c'est une praxis, c'est l'expérience. Et c'est par... et alors, c'est une expérience qui est toujours socialisée, incarnée... c'est une expérience qui est dans un corps et un corps qui est pris dans une histoire sociale aussi. Hein. Mais je pense que c'est ça qu'il s'agit de faire, que c'est capital dans toutes ces micropolitiques, parce qu'en fait, bon, Teresa ne l'appelle pas ça comme ça à cette époque-là, mais c'est déjà très proche des micropolitiques, c'est la question de l'expérience.
Oui, mais c'est l'expérience dans l'extrême des stéréotypes. Parce que pour moi, la drag queen, c'est le stéréotype poussé à l'extrême de la féminité. Et quand vous dites aussi, ok, la femme, actuellement, c'est un obstacle, qu'est-ce qu'on va faire de l'homme et du masculin? Parce que si aujourd'hui, moi, je vois des lesbiennes qui, effectivement, veulent devenir des garçons, pour moi, féministe, je me dis, merde alors, pourquoi elles peuvent pas rester, elles peuvent pas être ce qu'elles sont, comme elles veulent, elles ont besoin de bouffer des hormones, elles passent par la chirurgie, sauf que ça fait du business derrière, et actuellement, je pense qu'il y a des labos qui sont bien contents, et que ça veut dire que ça médicalise encore de nouveau le corps, et pour moi, c'est un échec de, justement, d'arriver à vivre son corps comme on l'a, et comme on l'aime. Donc, je veux dire, cette question de, pour moi, de la chimie et de la chirurgie, pour moi, aujourd'hui, ça me pose question parce qu'il y a vraiment du business derrière. Et donc, je pense qu'il y a des victimes aussi. Il y a des victimes aussi. Voilà, c'est tout. Hein.
Alors, important parce que ça, c'est...
Je vais répondre en tant que trans, donc victime de ces enjeux de labo ou de... Non mais je pense qu'il faut faire un parallèle important. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est le thème de la semaine prochaine. donc. Mais je pense que si on peut faire un parallèle avec les hormones et la contraception, c'est que c'était un outil de libération en termes d'enjeux de réappropriation du corps et mon corps est m'appartient. Bah pour les trans, ça relève du même adage. C'est mon corps m'appartient. Les outils sont les hormones en termes d'émancipation, de liberté, mais aussi de résistance, transgression par rapport à des normes, par rapport à une hétéronorme, un hétérocentrisme. Donc la chirurgie ou les hormones relèvent du même truc. C'est pas plus médicalisant que la pilule contraceptive.
Oui, sauf que c'est... Alors, après, quand même, revient la question de qu'est-ce qu'on fait des hommes. Si la femme, aujourd'hui, est un obstacle, qu'est-ce qu'on fait de l'homme? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le masculin va toujours remporter, hein, si on laisse la place. Bon. Et puis, il y a la question de... Il y a eu des femmes avec la contraception qui ont quand même payé les essais ouais. chimiques, puisqu'il y a eu le problème du cancer. Et je pense pas que les trans vont être particulièrement protégés par la science pour être prévenus de toutes les dérives liées à la médicalisation.
Mais on l'est déjà pas, donc voilà. C'est mais c'est des risques qu'on prend et des choix et des décisions de vie qu'on a pris. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet.
Mais quid du masculin quand même, si effectivement on pose la question trans. Du féminin à...
Faire un bébé stérilé, on a le droit. Sur l'histoire des... Mais à un moment, de toute façon, tu en prendras des hormones. Et tu te poseras même pas la question. À un moment, on va ménoposer, comment on fabrique la ménopause, comment...
Je propose qu'on parle tout seul la semaine prochaine, ensemble.
Mais la question est intéressante, alors comme oui, elle peut être traitée la semaine prochaine, il y a quand même quelque chose sur ce que tu as dit. Non, tu as dit la drag queen pour moi. Non, parce que ce que tu as dit, ça a été des arguments très débattus. En plus, dire que la drag queen, c'est la caricature de la féminité, donc et aussi critiquer la théorie de Butler pour ça. En fait. La drag queen, elle imite quoi? Elle imite ce que toute femme qui doit produire la féminité fait. Quand tu fais un exercice d'ailleurs et que tu commences au tableau, tu expliques un peu l'histoire de la drag queen. Alors tous les étudiants rigolent. Évidemment, moi je suis pas comme ça. Surtout que effectivement, les étudiantes d'aujourd'hui, même si elles sont pas lesbiennes ou brutes ou masculines, ne ressemblent pas à des drag queens. Mais finalement, au bout d'un moment, quand on commence à dire oui, mais si tu vas dans une soirée, si tu dois à un moment te présenter comme femme, ah ben les talons, ah ben la coiffure, ah ben et ben finalement il y a pas une différence de degré entre la drag queen et la femme telle qu'elle doit faire la performance de la féminité dans la vie de tous les jours. Donc c'est une première chose. Après, pour cette histoire de penser que, alors, il y a la médecine derrière, les hormones, il y a un marché, etc. Ça a été la thèse, d'ailleurs, il faudrait que tu la lises, de Bernice Haussmann, qui a fait un livre que d'aucun juge, d'ailleurs, assez transphobe, une thèse où elle dit « Je ne suis pas transphobe ». Et d'ailleurs, moi, je peux lui... Enfin, c'est pas à moi de décider, mais je pense pas, d'ailleurs, qu'en soi, ce soit la question... Mais elle toute sa thèse est là-dessus, c'est-à-dire de démontrer que en fait la transsexualité elle-même n'existe qu'à partir du moment où il y a eu des cliniques de réassignation de genre, qu'il y a eu des hormones ou la dite découverte des hormones sexuelles, parce qu'alors on pourrait discuter longtemps que ça existe, qu'il n'existe pas et tout ça, que fabrication des hormones de synthèse, l'idée des opérations. Donc soit tu fais du transsexuel. Dit du transsexuel. Hein. Le problème, c'est quand même qu'il faut voir que là, on l'objectif comme métaphore de quelque chose. Soit tu en fais une espèce aussi de ringard, enfin, ou de taré du genre, parce qu'en plus, l'imbécile, il n'est pas en train de contester la binarité des genres. Oui. Non, mais là, je réponds. Tout à l'heure, tu as posé la question des hormones. Alors, vous exagérez, mais j'essaie de suivre et de répondre en détail à vos trucs. Et après, bon. On peut s'identifier comme trans sans prendre des hormones, oui. On peut s'identifier comme trans aussi sans faire la chirurgie. Voilà, mais après, est-ce qu'il faut faire passer le couperet entre si on prend les hormones, comme si en plus il y avait que les trans qui prenaient des hormones, parce qu'il ne faut pas avoir une vision plus transversale de la question biopolitique des hormones. Moi, je serais d'accord pour la poser en ces termes, mais est-ce que c'est mieux de ne pas en prendre? Parce que d'ailleurs, tu disais autre chose, tu disais refuser son corps, tu avais une définition très ontologique de son corps de femme, et là, tu étais plus dans la thèse même de Janice Raymond, qui est aussi une féministe qui a volé dans les plumes des transsexuels, enfin donc des garçons biologiques qui devenaient des femmes, en disant c'est des imposteurs. Et cette fameuse histoire de Sandy Stone, qui est une transsexuelle qui travaillait à un moment dans une compagnie qui s'appelait Olivia Records de musique, et qui s'est fait jeter par les féministes parce qu'ils ont dit « t'es une fausse femme », ou qui lui ont dit « tu es une femme stéréotypée », etc. « Nous, on n'a pas fait », c'est le raisonnement que tu ébauchais tout à l'heure, « on n'a pas fait tout ce chemin pour... » On arrivait là. On n'a pas fait tout le féminisme pour que les nanas deviennent toutes des mecs, et puis des machos en plus, et puis des violeurs, pourquoi pas. Et bien sûr qu'il y aura des trans-violeurs. Comment voulez-vous que, vu les modèles de masculinité qu'il y a environnant, il n'y ait pas des masculinités, on va dire, agressives, pour le dire gentiment?
L'accent que là-dessus. Pourquoi mettre l'accent que là-dessus? Sur ce que c'est qu'être
un homme ou une femme.
Oui. Pourquoi ça serait ça les expériences de s'exercer à porter des talons hauts à aiguille et à faire la vampe ou de faire le mec qui roule des mécaniques? Pourquoi c'est ça qui aujourd'hui serait subversif? Ben, les fantasmes, il va être plus large que ça. Hein. Je sais pas, attends, on pourrait développer l'imagination.
Ce que justement, ça répond très bien à la question que tu posais tout à l'heure. Quand des gens font un atelier comme ça, ils font de la politique. Ils sont pas là pour dire... On est tous différents, on est des individus, ce qui entre nous est vraiment la pire arnaque politique qui soit, d'amener l'individu pour essayer d'affirmer une différence qui ferait que finalement on a le droit de s'exprimer, qu'on est tous différents, que ceci, que cela. C'est pas vrai. Tu peux dire demain je suis un individu, je me fous de tout, je vois la masculinité c'est stéréotypé, la féminité c'est stéréotypé. Tu es dans un milieu où tu peux difficilement éviter les codes de la masculinité et de la féminité. T'es gouine, tu veux pas mettre de robe, tu veux pas mettre de tailleur, tu vas bosser, un problème. Etc. Tu vas dans les chiottes, t'es un peu masculine comme moi, comme toi. T'es dans les chiottes des filles, on te demande ce que tu fais là. Alors tu vois, je veux dire, on peut pas dresser une espèce de conception individualiste vue comme le monde, la question des genres et du corps est saturée de politique et, comme tu l'as dit, d'enjeux évidemment commerciaux, médicaux, bio ceci, bio cela. Ça ne veut pas dire pour autant que prendre des hormones, c'est se livrer. Aussi, parce qu'on pourrait faire une critique marxiste et matérialiste et féministe matérialiste de tout ça en disant mais c'est épouvantable, c'est vraiment en plus exactement la logique néolibérale de production des identités. On peut aussi, tout ça est très intéressant, mais je crois que c'est pas aussi contrasté, tu vois. Enfin, là-dessus, c'est plus il faut plus ouvrir les problématiques que les fermer, parce qu'encore une fois, ce que tu dis, c'est des logiques, c'est vraiment tous ces raisonnements. C'est pour ça que c'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas la circulation des débats en France, parce que ça, c'est la question évidente que tout le monde s'est posée dès le départ aussi. Mais pourquoi? Mais pourquoi on a les féministes, mais vraiment, en plus, les féministes matérialistes ou les féministes qui s'étaient battues toute leur vie pour, par exemple, défendre une idée de la femme plus douce. Bon, pourquoi pas? Ou de vivre ensemble, des rapports soi-disant dénués de pouvoir. Non, il y a eu, le féminisme a cru à ça, et je trouve que c'est une utopie tout à fait respectable. Elles ont essayé. Non, il y a des féministes qui ont essayé de s'acheter un bout de terre, de vivre à la campagne ensemble en se disant entre femmes et donc avec une définition du genre biologique, on n'aura pas les rapports de pouvoir comme on a avec les hommes. Elles ont sexué le pouvoir, non genre, elles ont fait les... C'est ce que je dis.
On va passer à l'autre question.
D'accord, juste à retourner à la question de comment on peut pratiquer la théorie queer à un niveau de pratique, à un niveau concret.
Oui.
J'ai dû juste retourner à cette question.
Ouais.
Quand tu as parlé des micro-politiques trans, de gender fucking, de tout ça. Bon, je veux parler juste un peu de mes expériences à Toronto parce qu'il y a beaucoup des exemples de ça. Et c'est un bon exemple de des gens aussi qui sont entre les deux genres. C'est pas forcément les femmes qui veulent être les hommes et pour reproduire la binaire. Mais le problème est que ça reste dans les milieux, dans les bars, dans les boîtes un peu. Ça reste un peu classe moyenne. Et mais le problème est aussi si on veut créer un groupe avec les politiques queer et les politiques anticoloniales, par exemple.
Ouais.
Il y a beaucoup d'homophobie, de transphobie, de sexisme dans les groupes qui travaillent sur les questions d'anticapitalisme et d'anticolonialisme. Et quoi, j'offre trois idées pourquoi les politiques trans ne créent pas les mouvements sociaux maintenant, parce qu'on a besoin de l'action collective pour les changements. Ça ne peut pas rester dans les bars de gender fucking juste comme ça. Et je pense qu'une raison est que les politiques queer sont récentes, c'est juste pendant les dernières 20 ans. Aussi, la théorie queer reste dans le milieu universitaire, et aussi que les hiérarchies dans les groupes activistes, il y a aussi les mêmes problèmes de racisme, des mêmes hiérarchies, et les lesbiennes, les gays, les queers, tout ça sont discriminés dans les groupes. Et c'est juste ce que je propose. Et si vous proposez les suggestions ou les possibilités pour l'action sociale dans l'écran numéro, quoi. Je sais pas, mais juste quelque chose plus fort que le niveau micro.
Ça tombe bien que tu te dises ça, parce qu'en fait, je reviens sur la semaine prochaine. Enfin, sur le 5 décembre, plutôt. Pas la semaine prochaine, la séance prochaine, où effectivement, quand on parlait de pratiques politiques queer, il a existé des pratiques politiques queer, mais vraiment concrètes, dans le cadre de l'activisme trans, et ça a existé en France.
Je voulais dire juste une autre chose, c'est que je suis d'accord et à Toronto aussi, il y a les groupes de trans SDF où les questions de classe et de genre sont ensemble, juste à cause de c'est difficile de trouver un boulot si on te demande es-tu homme, es-tu femme, tu es quoi, et pour ça raison je te comprends dans le sens des politiques trans et des questions de classe.
Moi, je n'ai pas ajouté davantage, en mesure où c'est vraiment le propos de la séance dans deux semaines, donc à part Marie-Hélène. Mais c'est vrai, Marie-Hélène,
moi, je peux dire quelque chose.
Mais il peut répondre, ce ne sont pas forcément les mêmes gens.
Ah, c'est toi, modérateur.
Vas-y, on va finir avec Marie-Hélène, alors.
Non, mais c'est important cette question parce que c'est toujours le décalage aussi, puis l'effet de présentation. Moi, vous me demandez, les politiques queer, j'ai l'air de les défendre. Ça fait 20 ans que je suis dedans, je vous dis, ça a marché sur moi, je vois ce que ça a fait. Et je pourrais le. Bon, c'est un peu plus long. C'est pas que dans les bars, c'est aussi dans les chiottes des bars, aussi de la manière dont les gens baisent, on voit plein de choses, etc. Mais effectivement, quand j'ai répondu tout à l'heure positivement, je pourrais vous dire que pour moi, le terme de queer est en crise aussi, et exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Et j'essayais de le dire très vite tout à l'heure, c'était que, bon, quand Deloretis, elle a dit queer, elle posait ce problème-là. Hein. Et d'ailleurs, maintenant, elle ne veut plus entendre parler non plus. C'est drôle de voir comme les...
et Butler et Deloretti ne veulent pas entendre parler pour des raisons très différentes, mais parce qu'elle, elle posait cette question d'articulation, race, classe, et puis aussi d'infra-discrimination et d'articulation. Alors, à un moment, on s'est dit, ah ouais, génial, c'est ça qu'il faut faire, c'est la politique de la coalition, ça va marcher avec ACT UP, etc., etc. Oh, c'est une politique qui marche si on a un objectif commun, puis finalement, les gens, ils viennent autour, ils viennent pas avec leur identité. Donc on disait, ah oui, c'est ça la politique queer post-identitaire de coalition. Et encore une fois, la crise du sida était un bon exemple, etc. Il faut dire que la crise du sida, là, au moins, il fallait que les gens s'y mettent. Hein, bon. Là, effectivement, moi, tout à l'heure, j'essayais juste, j'ai donné des exemples de choses qui marchent. Je pourrais donner, enfin, après, c'est pas des exemples de choses qui marchent pas, mais cette question d'articulation race, classe, machin, objectivement, elle marche pas. Et j'essayais juste de dire tout à l'heure, c'est pas en répétant en plus entre blancs, gna gna gna, parce que c'est ce qui se fait en France. Mais je sais qu'à Toronto, c'est pas ça qui se fait, qu'aux États-Unis ou dans les groupes queer. Mais n'empêche qu'on a beau le dire, faut articuler, on sait pas comment l'articuler, et on sait pas comment faire une politique, effectivement. Après, peut-être aussi qu'il soit une politique, alors, qui ait accès à l'espace public, qui soit un facteur de transformation sociale plus général aussi. Et je pense qu'il y a des gens maintenant qui ont envie de ça aussi. Tu vois, donc je n'ai pas de solution. J'ai juste parlé de quelques stratégies de présentation et de thématisation que nous, on allait mettre en place dans le séminaire, qui pour nous est un lieu de vie aussi bien qu'un bar, en fait. Tu vois, enfin, parce que nous, on est, voilà, enfin, je veux dire, ce genre de séminaire, quand on les a fait, les séminaires du zoo, ils s'y passaient. Enfin, les gens, ils viennent pour leur vie, ils viennent pour changer des choses. Enfin bon, c'est plus une mentalité peut-être aussi anglo-saxonne. Hein. Le savoir, c'est fait pour ou l'université pour apprendre des choses sur toi ou bouger ou changer ou faire la politique. Donc nous, on est là, on n'est pas plus loin, quoi. Et j'ai pas de solution. Et cette question de l'articulation. En plus, on dit souvent que les queers sont des espèces de petits jouisseurs hein, qui s'en sont mis plein la cloche, qui sont que des êtres sexuels et commerciaux et intéressés par la théorie, alors que les marxistes les matérialistes, les féministes matérialistes seraient encore dans l'oppression, n'oublieraient pas les victimes des hormones et de tout ça et de tout ça et de tout ça. Et en fait, si vous lisez les post-marxistes qu'on lit plus au Canada qu'ici on n'a jamais lu, jamais traduit, et qui sont la CLAO, qui sont Chantal Mouffe, etc., il se repose exactement la question de comment articuler les luttes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors nous en France, on a une vision des mouvements sociaux, il n'y a qu'à voir en ce moment. La question, c'est ça, c'est comment faire fonctionner les conflictualités ensemble. Alors je sais, après, on retombe dans un discours abstrait, mais finalement, si on est tous d'accord pour faire avancer des politiques minoritaires, qui finalement... C'est quoi l'objectif? C'est quand même de reformuler les luttes antiracistes. Et on se rend compte que la posture antiraciste de naguère, finalement, ça va, quoi. Un, ça marche pas. Deux, c'est dégoûtant, finalement. Ça marche plus. Donc, on est tous en train d'essayer d'articuler les choses ensemble. Donc après, je suis sûre que si les gens se retrouvent et qu'ils veulent articuler un truc ensemble, ils y arriveront. Je sais pas où ça se fera, à la fac ou dans les chiottes, mais ça se fera. Peut-être dans tous les endroits en même temps. Mais effectivement, la question de l'articulation, de l'intersectionnalité, de nous produire un mouvement social, ou un mouvement culturel, ou un mouvement transnational, au sens où, quand même, la nation, là, on n'en a pas parlé, mais c'est évident, parce qu'on parle de la mondialisation, mais finalement, ce qui est de fort aussi dans le mouvement féministe, dans les mouvements marxistes, dans les mouvements ouvriers, dans les mouvements queer, c'est de s'organiser au niveau international. Ça, par exemple, on ne le fait pas. Oh, on bouge beaucoup, on se fréquente beaucoup, etc. Mais on ne s'est pas organisé. Je ne dis pas qu'il faut s'organiser de manière... soviétique non plus, mais il y a tout ça, c'est toutes ces questions se posent là maintenant, et peut-être que demain queer le terme disparaîtra, j'en sais rien, mais les questions qu'essayent de soulever ces minoritaires ensemble, elles existent, et il se trouve qu'en ce moment, je trouve que ceux qui apportent des réponses ou des problématiques, et tout le monde vous le dira dans le milieu queer, hein, c'est vrai que c'est les trans, parce que ils ramènent sur le tapis l'expérience, alors que voilà, ils ramènent le corps, l'embodiment, ils ramènent des choses qu'on n'avait pas forcément oubliées, ben voilà, et de même que les queers de couleur, ils commencent à nous fermer la gueule avec nos histoires de post-col, et je sais pas, peut-être que c'est aussi arriver simplement à bien faire à faire des assemblages. Alors j'aime pas trop ce terme, ça fait un peu collage postmoderne, mais de toute façon, on sait maintenant qu'on ne peut plus être dans une idée d'un mouvement politique où on sait ce qu'on aura au début, on sait ce qu'on aura à la fin et qui va le faire. Alors vous allez me dire, ah ben c'est emmerdant, mais c'est un peu ça. Donc, on sait qu'à un moment, il faut faire des coalitions provisionnelles. Mais bon, c'est comme ça que ça se fera, je pense. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un saura mieux l'articuler que moi aujourd'hui. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent tous des questions qui vont dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas de réponse. Et je ne dis pas que queer est la solution. Monsieur ? Vous ? Moi ? Ah bon ?
Bah, merci. En privé.
Ah, c'est payant.
Mais je vais quand même rajouter quelque chose par rapport à des discours minoritaires qu'on entend vraiment pas beaucoup dans l'espace public et pour laquelle la question de l'expression publique est extrêmement compliquée aussi. Moi, je travaille sur les activités de services très féminisées, hein, ce qu'on pourrait appeler les travailleuses du care, pour les gens qui travaillent sur tous ces métiers d'aide à la personne, qui sont des femmes, souvent issus des différentes migrations, alors en France comme partout, hein, parce que ça c'est vraiment tout à fait transnational pour le coup, hein, cette problématique-là, hein. Et qui ont donc une expérience du travail qui concerne le rapport à autrui, à sa dépendance, à sa défaillance, à son corps, etc., etc. C'est une expérience qui est extrêmement difficile à rendre audible dans l'espace public. C'est tout à fait une expérience de minoritaire, hein. C'est ce que dirait Spivak quand elle dit qu'elle ne subaltern talk. On est tout à fait sur cette question-là. Là, il n'y a rien à voir avec leur sexualité, il y a tout à voir avec leur travail. Mais on est dans quelque chose où là aussi la question des formes d'expression publique et de la manière dont on peut intervenir quand justement on n'est pas la personne concernée. C'est-à-dire, moi je suis pas travailleuse, je suis pas aide à domicile. Il se trouve que mon travail de recherche fait que je travaille à formaliser l'expérience des travailleuses à domicile avec elles. Mais comment ne pas il y aura pas de grand mouvement social qui va venir de cette catégorie professionnelle, parce que les gens sont atomisés, parce que les gens sont fatigués, parce que elles courent entre différents boulots, leurs gosses, que la plupart sont dans des familles monoparentales, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il va pas y avoir un grand mouvement social qui va venir comme ça. Et pourtant, la question politique, elle est tout à fait posée. Et là aussi, il y a des choses nouvelles à inventer. Moi, j'ai pas de réponse tout de suite. On est sur un domaine qui est pas celui de la sexualité, mais qui est celui du travail. Et la question est la même. On est du côté des minoritaires. Et la question, elle est tout à fait ouverte et posée aussi de comment construire du politique à partir de ça. Pas gagné, je peux vous dire.
On va s'arrêter là. Et peut-être qu'on aura des réponses pour la prochaine séance. Dont l'intitulé Le monde médical et construction des normes avec Tom Rocher qui est trans et psychologue clinicien. Je sais qu'un débat avait été ouvert sur l'ethnopsychiatrie et il se trouve qu'il est ethnopsychiatre. Donc ceux qui avaient assisté à ce débat-là peuvent revenir pour la prochaine séance avec moi-même, pour le coup. C'est pour ça que je fais de la pub. Et Valérie Marange qui est philosophe. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux cycles de films en parallèle de ce séminaire genre, normes et transgressions. Donc les écrans sociaux, avec pour la prochaine séance le 28 novembre 2007 au cinéma Georges Méliès, lutte féministe et films de lutte quand elles se sont emparées de la caméra, et le cycle Sun in Your Head de vidéo expérimentale, et la prochaine séance est le 7 décembre. Merci.
Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.